Bonjour et bienvenue à l'Université de Montréal, l'antenne outre-montée du colloque L'art et la politique de l'Italie. I'm Leanne Moyes, chair of the Department of English Studies at UDEM, and I want to extend a special welcome to those from outside the city, as well as to those from the other side of the mountain. Merci d'être venu. Avant de passer la parole à mes collègues, vous me permettrez une petite mise en contexte. Ce colloque interdisciplinaire a été organisé par l'Institut pour la vie publique des arts et des idées de l'Université McGill, en collaboration avec le département d'études anglaises de l'Université de Montréal et le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, c'est-à-dire le CREUM. J'aimerais remercier les départements de littérature de langue française, de littérature comparée et de littérature et de langue moderne, ainsi que la Faculté des arts et des sciences, qui ont contribué généreusement au financement de notre colloque et qui ont rendu possible ce conférence aujourd'hui. J'aimerais également remercier notre vice-doyen sectoriel, M. Robert Schwarzwald, vice-doyen aux affaires professorales de la FAS, qui nous a soutenus dans ce projet depuis le début. Et je l'invite maintenant à vous adresser brièvement la parole.
Effectivement, je serai bref, parce que je sais que votre journée a été longue et je suis sûr que les débats ont été fructueux. C'est l'ironie, bien sûr, que puisque mon bureau est ici au 9e étage, je n'ai pas pu assister aux séances aujourd'hui, mais j'ai pu assister hier à McGill. C'est un peu comme ça que cela arrive. Mais je voulais, de la part de mes collègues à la direction de la Faculté des arts et des lettres, vous souhaiter la bienvenue ici, dans une des salles de notre carrefour des arts et des sciences. C'est une nouvelle installation étalée sur 3 étages de ce pavillon avec des salles multifonctionnelles à la fine pointe de la technologie, précisément pour tenir des événements d'ordre multidisciplinaire et interdisciplinaire. Alors, nous sommes ravis d'avoir travaillé avec nos collègues de l'Université McGill. C'était un grand plaisir pour moi d'être présent au tout début de ce projet et maintenant de voir sa réalisation ici et à McGill. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence ce soir et une très belle continuation demain. Merci.
Merci, Robert. Je passe la parole donc à mon collègue Michael Sinatra qui présentera notre invité.
C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter brièvement Pierre, qui est professeur à l'Université de Caen, en Belgique, où il enseigne la littérature française. Il s'intéresse particulièrement à la question de la représentation littéraire récemment de la Grande Guerre, une thématique pour laquelle il a publié 3 ouvrages, La Grande Guerre, ainsi que de fiction romanesque en 2008, Fiction de la Grande Guerre chez Garnier en 2009, et J'ai tué, violence guerrière et fiction en 2010. Dans ses travaux, Pierre interroge régulièrement la littérature des 20e et 21e siècles dans une perspective européenne, qui permet de mettre en avant des connexions nouvelles et d'offrir un regard interdisciplinaire sur la littérature francophone. Plus récemment, le lien direct avec son intérêt pour la littérature de l'extrême contemporain des 30 dernières années, il a lancé en 2010, en collaboration avec une équipe internationale, une publication électronique, la Revue Critique de Fiction Française Contemporaine. Il est aussi évidemment un chercheur qui a grandement contribué à la réflexion théorique sur la nature de l'ironie, le thème de notre conférence, avec 2 ouvrages fondamentaux, Poétique de l'ironie, publié au Seuil en 2001, et Silhouette de l'ironie, chez De Rose en 2007. Marie de Granda avait écrit de manière très juste, je pense, dans son compte rendu sur Poétique de l'ironie, « Chanteuse nettoie la notion de l'ironie et réévalue ce qui avait disparu ou avait été négligé, sans toutefois se fourvoyer dans la quête d'un original perdu. » Et plus récemment, les travaux de Pierre se portent sur l'éco-poétique, et nous avons le plaisir de l'entendre aujourd'hui nous parler d'ironie, écologie et la nature. Merci de soutenir à moi pour nous recueillir Pierre.
Merci Michael pour cette présentation.
Je suis particulièrement honoré de parler ici. Je remercie tous. tous ceux qui ont fait l'effort de rester à cette heure indue et écouter une conférence dans une langue qui n'est pas celle qui me semble la plus pratiquée lors de ce colloque. Je suis particulièrement heureux de parler au Canada, au Québec, que j'y ai travaillé précisément à ce livre qui a été publié en 2001, puisque c'est un séjour à Massey College avec Linda Hutchin que j'ai commencé à travailler à ce livre-là, et donc je suis très heureux de parler au Canada aujourd'hui. Vous avez vu aussi dans le programme que ma phrase, qui était une phrase d'appel, qui disait que la nature ne pousse pas sur les arbres, c'était un emprunt aussi à Linda, qui s'en prenait un peu à certains éco-critiques à certains moments. J'ai un peu essayé de développer cette position qu'elle a mise en avant de manière assez provocante. Je prévois de parler une petite heure comme convenu autour de trois questions. La question de l'écopoétique en réaction au postmodernisme, la question de l'usage de l'ironie contre une écologie militante, et à l'opposé, l'usage d'une ironie au service de l'écriture de la nature. Pour finir par une conclusion, où j'essaierai de réfléchir aussi à la position de l'individu dans la société et dans la nature, à partir de la question de l'ironie. Voilà à peu près le programme. Les Racines du ciel, qui a obtenu le prix Goncourt l'année de sa parution, passe communément pour le premier roman écologique en France. Sur fond de la montée des nationalismes, Romain Gary retrace le combat mené par son protagoniste pour mettre fin à l'extermination des éléphants dans l'ancienne Afrique équatoriale française. De caractère bourru, Morel est considéré comme un illuminé par la plupart des coloniaux. Mais il apparaît que son engagement en faveur de la faune sauvage et au-delà de la préservation de la nature participe en réalité d'un humanisme essentiel, né de l'expérience des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lecteur vérifie rapidement que Gary est en sympathie avec le personnage principal de ce roman. Cependant, l'affection de l'auteur pour Morel n'empêche pas la lucidité des jugements. Expression ceci se trouvant d'ailleurs facilitée par la forme de l'œuvre qui multiplie les perspectives et les prises de position. Voici comment le défenseur des éléphants apparaît à son interlocuteur après une scène où il expose ses exigences. C'est clairement un de ces hommes bien intentionnés qui n'ont pas du tout le sens de l'ironie et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il se tient devant moi, à cheval, devant mon cheval, dans l'herbe, les jambes un peu écartées, avec un air stupide de fermeté, d'obstination, et il ne paraissait vraiment douter de rien. Le narrateur, lui, possède, à la différence de Morel, de l'ironie. Et il note « Je pris la liste des spécimens menacés d'extinction et dont la protection est nécessaire, et, note-t-il, avec malice évidemment, dès le premier coup d'œil, je vis que l'homme n'y figurait pas. » Morel s'exprime toujours avec la plus grande conviction, la plus grande sincérité. Même quand ses propos pourraient laisser supposer un double sens, ses interlocuteurs se voient forcés de conclure qu'il n'en est rien. Il y en a un qui note « J'ai bien regardé, mais non, rien, pas une trace d'ironie. » La cause semble entendue. L'incapacité à prendre une distance critique par rapport à son engagement semble condamner d'avance le défenseur de la nature. On trouve d'ailleurs aujourd'hui, encore dans des textes contemporains, de nombreuses remarques qui vont dans le même sens. Ainsi, chez Sylvain Tesson, qui a fait récemment l'expérience de la solitude en Sibérie, qu'il note dans cet ouvrage qu'il a ramené de ce voyage immobile, il note la chose suivante, il parle de taureaux, dont l'expérience relatée dans Walden constitue un des déclencheurs éloignés de l'entreprise. Il écrit « Il y a une joie dans ce bois, mais pas une once d'humour. » Voilà peut-être ce qui rend les visages des ermites si graves et les récits des deux taureaux si sérieux. La remarque semble confirmer la validité du cliché selon lequel les défenseurs de l'environnement manquent totalement d'humour. Mais elle illustre surtout que l'ironie est en réalité du côté du lecteur, comme elle est aussi dans le regard de celui qui observe la nature. Elle remarque encore que c'est peut-être Tesson lui-même qui manque d'ironie, car si Thoreau possède des travers, il a certainement le sens de l'ironie. C'est ce qu'on voit très bien quand on lit Léo Marx, l'importante étude de Machine in the Garden, qui souligne par exemple que le très célèbre passage sur le champ des haricots est en fait un texte particulièrement qui mélange le sérieux et le comique. Je rappelle donc qu'il n'existe évidemment pas d'ironie immanente. L'ironie est toujours dans le regard de celui qui observe, et nous verrons plus loin que certains écrivains imaginent, à l'opposé de Tesson, que la forêt, par exemple, est précisément le lieu habité par une ironie fondamentale. Mégary n'entendait pas rejeter en bloc le caractère de Morel sur base de son manque d'ironie. Le narrateur avait noté en effet simultanément que le ridicule inévitable d'un homme s'identifiant pleinement à sa cause suscite aussi d'autres sentiments. Je faillis éclater de rire, mais quelque chose en lui vous donnait envie de le ménager, peut-être son manque évident d'humour. Il m'a souvent paru qu'à partir d'un certain degré de sérieux, de gravité, un homme dans la vie est un infirme. Ce n'est pas la condescendance qui dicte ce commentaire, mais un désir de rendre compte le plus honnêtement possible de la complexité des réactions suscitées par tout engagement fort, voire exclusif. À lire ces pages des Racines du ciel, il me semble que l'on peut y trouver l'expression de rapports contradictoires que peuvent entretenir l'ironie et l'engagement. Rapports différents d'ailleurs selon les domaines dans lesquels ils s'expriment, mais que j'examinerai ici dans le cadre de l'écologie. Je m'y arrêterai à travers l'étude tant de textes polémiques que d'œuvres d'imagination et en m'efforçant de les cadrer simultanément dans le champ créatif de la nature writing. L'attention ira donc vers la discipline universitaire qui se consacre à la littérature environnementale, une approche nommée par les anglo-saxons eco-criticism, mais qu'en Europe continentale, l'on désigne plus volontiers par le terme d'éco-poétique. Là où l'accent porte d'abord sur des enjeux éthiques ou de société dans l'univers anglophone, le monde francophone se montre plus attentif à des questions d'écriture. Alors, l'écocritique s'est développée depuis une vingtaine d'années à la suite des travaux de Buell, qui, à partir d'une lecture serrée de Thoreau et d'autres écrivains fondateurs de la littérature environnementale américaine, a défini un nouveau champ de recherche ainsi qu'une approche pour l'étudier. Venant après les années théoriques et celles du postmodernisme triomphant, l'ambition affirmée par les tenants de ces critiques serait d'une part de réconcilier la littérature avec des lecteurs qui auraient été lassés par les jeux formels de l'écriture, et de l'autre de rapprocher le livre du monde en donnant à l'environnement, aujourd'hui menacé, une visibilité maximale. Le lieu occupe une place centrale dans cette critique qui prend pour point de départ le constat que les livres contribuent fortement à déterminer notre regard sur le monde, et qu'il est donc essentiel que la littérature se tourne résolument vers l'environnement naturel. Si Notre-Dame de Paris ou n'importe quel autre lieu urbain doit sa conservation, en partie au moins, à ce qu'il s'est trouvé nourri des significations que des générations d'écrivains ont pu lui attribuer, alors l'on peut légitimement espérer qu'un travail créatif similaire s'appuyant sur la nature conduira également à sa protection. Buell, qui entend insuffler du sens dans le paysage naturel, souligne certainement une réalité capitale lorsqu'il observe que la manière dont nous imaginons une chose a des conséquences sur notre comportement envers elle, même si cette chose est imaginaire. Par la formule, il rappelle le pouvoir de la langue et la capacité que possède la littérature d'influer sur le réel en faisant levier sur l'imaginaire. Sa position revient à accepter au moins comme hypothèse de travail que la littérature peut conduire les lecteurs à adopter un comportement plus respectueux envers l'environnement. C'est pourquoi, dans Writing for an Endangered World, il emprunte à Wendell Berry cette formule essentielle: To preserve our place and be at home in them, it's necessary to fill them with imagination. Portée d'abord par des textes qui ne relèvent pas de la littérature d'imagination, l'éco-critique est une approche dans laquelle le réalisme d'une part, l'engagement de l'autre, retrouve pleinement droit de cité. Se présentant volontiers dans le sillage des Cultural Gender and Gay Studies, marqué à gauche, l'approche n'est cependant pas exempte de prise de position parfois conservatrice, ne serait-ce que dans la mesure où l'écriture de la nature comporte régulièrement une part d'académisme qui fait appel à des formes d'écriture et à une idéologie traditionnelle. Dans les publications universitaires, une image revient fréquemment, celle d'un critique ayant passé sa vie à étudier la littérature autoréférentielle et qui, un beau matin, regarde par la fenêtre pour se rendre compte que le monde ne se limite pas à la virtuosité intellectuelle des écrivains postmodernes et à l'ingéniosité des universitaires qui les étudient. Voici un exemple, mais je pourrais vous en donner plusieurs, emprunté celui-ci à Frank Stewart. On a morning several summers ago, as I glanced up from the rereading the postmodern poets and critics, through the narrow window above my head, I saw that the brightening had made my lamp unnecessary. A pale mist hung like a veil over the deep meadow outside. Et la page va se poursuivre par une description du paysage de Hawaï, où l'auteur vit à l'époque de l'écriture de son livre, pour en souligner la beauté. La vie serait là, au contact d'une nature redécouverte, et pas dans les jeux stériles d'un désengagement ironique. Comme le soulignaient déjà Kerridge et Simons en 98, « In some of its versions, environmentalism is undoubtedly in conflict with postmodernism hostility to grand narrative and insistence on pluralism, irony and the autonomy of small narratives. » Pourtant, Dana Phillips a observé que l'écocritique possède beaucoup plus de traits communs avec le postmodernisme qu'elle ne l'imagine, même si la discipline a été lente à le reconnaître. Like postmodernism, ecocriticism also assumes that we have become modern. The bulk of its efforts to trace the connection between culture and nature have been devoted to imagine what it must have been like in the good old days before we were drowned in conflict with nature, conquered it, and then severed our connections with it. La précision est importante, mais elle n'oblitère pas le fait que c'est souvent dans l'intention d'échapper au jeu tenu pour gratuit d'un postmodernisme dont l'ironie a été reconnue comme la catégorie majeure, que le lecteur actuel se tourne vers une littérature plus directement en prise avec la littérature, avec la réalité environnementale. Le désir d'engagement s'exprime aujourd'hui clairement en faveur de ce qui apparaît comme la seule utopie de notre monde contemporain, l'écologie. Aussi ne doit-on pas s'étonner que la sincérité des opinions, la volonté de transformer le monde en gagnant des partisans à leur cause, amène que les écologistes, semblables en cela au Morel de Romain Gary, manquent quelquefois du sens de l'ironie. Alors il serait aisé de multiplier des exemples et des prises de position en faveur de l'environnement dont le sérieux fondamental ne laisse place à aucune ironie, sinon involontaire. Mais j'illustrerai ici le propos en rappelant l'image du militantisme telle qu'elle est présentée dans quelques ouvrages littéraires préoccupés par la question environnementale, encore qu'à des titres très divers. Alors, héritier d'André Dautel, Patrick Rumeau est à la fois traducteur, poète et romancier. Il compte parmi les plus intéressants des écrivains de la nature en France. Combinant de solides connaissances et une vraie maîtrise de l'écriture, il entend marquer la différence entre ses propres chasses fragiles et celles fréquemment plus violente des écologistes. Je vous lis un extrait. « Les écologistes ne rient jamais. Ils se déplacent dans la nature en chuchotant, comme les touristes turcs dans la cathédrale Saint-Pierre à Rome ou des paparazzis dans la mosquée de Constantinople. Ils éprouvent vis-à-vis de la nature des sentiments patrimoniaux. Ils ont une mission, ce qui les apparente aux illuminés. Ils sont en ce sens aussi dangereux, capables de vous tirer à vue s'ils vous voient ramasser une pâquerette. » Et un peu plus loin, « Les écologistes ne pleurent pas, ils gagnent des élections, se congratulent, fourbissent des armes contre leurs ennemis, qui ne sont ni les promoteurs, ni les hommes politiques véreux, mais vous ou moi, candide promeneur. » Termine, « N'ayant pas d'affectivité, ne pleurant ni ne riant, ils compensent en rationalisant, ils ont du logos, en pédagogue né, ils sèment la bonne parole. » L'on voit aisément comment Remaux retrouve les mêmes termes qu'avait utilisé Gary. L'écologiste prend chez lui les traits d'un type éternel, le fanatique. Conformément à une tradition bien établie en France depuis Voltaire, l'ironie s'avère dans ce contexte l'arme par excellence qui permet de dégonfler les travers et les prétentions des extrémistes de toutes les tendances. La position adoptée ici apparaît similaire à celle de Yegor Grin, qui, par contre, est loin de s'inscrire dans la tradition d'écriture qui est celle de Remaux. Dans un récit publié récemment chez POL, intitulé « L'écologie en bas de chez moi », il amplifie une tribune donnée à Libération pour faire le procès à charge de l'écologie bien-pensante qui, selon lui, serait en train d'envahir le quotidien des Français. Avec moins de talent, beaucoup moins de talent, mais beaucoup plus de véhémence que Remaux, il s'arrête à une scène comme celle-ci, où un écologiste corrige son fils qui vient d'arracher des feuilles à un laurier en pot. « Qu'est-ce que tu as fait, Mathieu ? Non mais tu es pas bien, il souffre l'arbre. Tu lui as fait mal. Et si moi je t'arrachais un bouc, tu dirais quoi ?» Et il l'attrape par l'oreille, tire vers le haut. Mathieu pousse un hurlement. « Tu vois, ça ne te fait pas plaisir, hein ? Eh bien, c'est pareil avec la nature. L'arbre crie, mais tu ne l'entends pas. » Le trait est forcé, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Mais il s'agit de souligner le fanatisme en épinglant l'absolue incapacité des écologistes à saisir la relativité des enjeux de leur cause, ou du moins à leur astreindre une place dans une hiérarchie de valeurs partagée par le plus grand nombre. Grin insiste aussi sur l'incapacité caractéristique de l'écologie à imaginer une vision du monde qui ne sera pas la sienne. Adoptant la position d'un Socrate naïf, c'est encore lui faire beaucoup d'honneur, Grin fait mine de s'intéresser au commerce équitable. Mais évidemment, c'est pour mieux piéger son interlocuteur. C'est bien Carrefour, je demande. C'est responsable. Mon ironie froide est du chinois pour lui. Il prend la question au premier degré, comme si je tenais vraiment à me documenter sur les engagements de son distributeur. L'auteur qui construit son pamphlet en recourant aussi bien à la charge frontale de la satire qu'aux allusions implicites de l'ironie, souligne combien l'ambiguïté est peu goûtée chez les militants de l'écologie. Je savais pourtant que le double sens et l'humour sont absolument honnis par eux. Une fois encore, c'est le manque d'ironie et l'absence de sens de l'humour qui est reproché aux militants d'écologie. Grin lui-même, s'estimant protégé par sa distance critique, mon rire me protège de son Dieu. Son ironie fait de lui un être supérieur. Enfin, c'est ce qu'il imagine. En marge de la problématique de l'écologie radicale et de ses opposants, il est intéressant d'observer quelle place peut tenir l'ironie dans l'écriture de la nature. On aurait beau jeu d'arguer que l'origine même de l'ironie dans la cité antique, au centre de la maïeutique de Socrate, la prédispose à faire partie de l'arsenal de la ville et lui rend étranger l'univers naturel et rural. Le côté policé de la pratique avait déjà été souligné par Cicéron, qui la désigne par le terme de urbana, urbs, policé, police, hein, de urbana dissimulatio, quand il dit hein, c'est une ironie spirituelle que de dégager sa pensée. Hein, il n'emploie pas le mot ironie, il emploie le mot urbana dissimulatio pour dire ce que nous nommerions aujourd'hui ironie. Balzac fera exactement de même. Plus tard, quand dans Les Paysans, il mettra en scène un Parisien qui est le seul à posséder le sens de l'ironie. Et ça se retrouve aujourd'hui toujours, et je pourrais vous citer un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Jean Rollin, dans L'homme qui a vu l'ours. Jean Rollin moque les ruraux qui s'opposent à la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Alors il a interviewé des autochtones et il leur donne la parole. Avec tout cela, Monsieur Apiou, qui est un paysan du coin, chasseur, est éminemment sympathique. Et quand bien même il aurait tué un ours par-ci, par-là, on ne peut pas plus lui en vouloir qu'aux Esquimaux de chasser quelques baleines avec des cure-dents. L'ours, dit-il, il faut le laisser courir. Mais si j'en vois un au milieu d'un troupeau là, c'est sûr, je l'allume. Monsieur Apiou a une vision globalement catalysmique du règne animal. L'honnêteté oblige à dire que Rollin raille dans le même mouvement les écologistes. Et Antoine Bechter, le politicien bien connu, politicien écologiste évidemment, se trouve réduit à sa seule qualité, qu'il est possède effectivement d'être le meilleur spécialiste du castor en France. Ces pics n'épargnent finalement personne, sinon le Parisien désabusé qui, revenu de tout, ne croit plus à rien. Alors l'on aura reconnu ici un certain style qui est celui de Libération, où la série de reportages sur les animaux a d'ailleurs paru initialement, un quotidien dont les collaborateurs n'ont pas tous, hélas, le talent d'écriture de Jean Le Rollin, même s'ils entendent volontiers faire de l'ironie leur marque caractéristique. Alors ce n'est pas un hasard non plus si l'ironie du sort est si fréquemment utilisée pour confronter les positions des écologistes, végétariens et autres partisans du développement durable, pour les renvoyer à leurs contradictions. Dans sa charge contre l'apocalyptisme fréquemment envahissant de l'ironisme militant, Pascal Bruckner, autre essayiste, observe que ceux qui sollicitent le plus l'esprit moutonnier, lorsqu'il s'agit d'adhérer à leur thèse, sont les mêmes qui prétendent mettre en garde contre notre esprit grégaire. Il y a, dit-il, une certaine ironie à voir les propagateurs les plus acharnés de la couardise déplorer notre apathie, alors que c'est exactement ce qu'ils cherchent à produire. L'ironie du sort est évidemment d'un grand recours dans la polémique, parce qu'elle permet de renvoyer les adversaires à leur paradoxe. On ne s'étonnera donc pas de trouver des exemples d'ironie, de dissuasion massive, chez Yegor Gram, qui dit par exemple, je cite, « Hitler aussi aimait beaucoup de la nature, voulait la protéger, il était végétarien. » Sa rhétorique prudente ne retient pas de recourir à cet argument qui trouble d'ailleurs jusqu'à Jonathan Safran Foer, le très populaire défenseur de la cause animale. À lecture des exemples cités, l'impression pourrait naître que l'ironie a changé de camp et que la pratique n'appartient désormais plus à l'arsenal des progressistes qui veulent transformer la société, comme cela avait été le cas pendant la période qui avait vu l'ironie associée à la longue série de revendications portées aussi par les arts, droit civil, émancipation féminine, cause homosexuelle, etc. En réalité, évidemment, il n'en est rien. Ce n'est que dans la mesure où l'écologie militante s'efforce d'entraîner un changement dans le monde et qu'elle se fait prescriptive, pareil en cela à tout engagement, qu'elle prête aussi facilement le flanc à la critique ironique. La situation actuelle de l'écologiste est comparable à celle du réformateur utopiste. Mort, Campanella, Fournier et Cabet ne comptent pas parmi les plus grands ironistes. Chacun sait que les meilleures utopies ne sont pas celles dont les réformateurs dressent le plan, moins encore celles qui sont réalisées, mais bien les utopies ironiques, le Candide de Voltaire, Around the Butler Animal Farm, 1984, etc. L'ironie n'appartient pas à celui qui désire fonder, elle vient après, dans un second temps, qui marque le retour et la mise à distance par rapport à l'engagement. Il s'ajoute à cela que l'ironie que nous avons étudiée jusqu'à présent surgissait dans des lieux et des formes de discours qui appartiennent essentiellement au débat public. Or, sur le forum s'exprime d'abord une ironie traditionnelle, celle qui entend blâmer par la louange et pas une ironie plus littéraire, qui valorise les ambiguïtés et renvoie les contradictions dos à dos. Les croyances fortes des écologistes et des autres défenseurs de la nature, leur volonté de convertir, sont des cibles toutes désignées pour la satire. L'ironie rhétorique permet aux opposants de critiquer les points de vue verts, sans tomber dans le travers qu'ils reprochent précisément aux militants, adopter des positions si moralisatrices qu'elles risquent de verser dans l'intolérance. Il existe des fictions qui prolongent la polémique contre l'écologie profonde, en stigmatisant les positions de ses partisans, quitte à les caricaturer au besoin, comme le fait par exemple Jean-Christophe Ruffin dans Le Parfum d'Adam. Ce sont là des fictions à thèse qui, dans leur effort, louable peut-être, compréhensible en tout cas, de discréditer auprès du grand public les positions extrêmes, crée toutefois l'amalgame et conduit souvent à jeter la suspicion sur toute forme d'écologie. Le roman de James Ballard, que je vous conseille absolument, La course au paradis, bien que violemment critique envers les positions féministes et écologistes extrêmes, est d'une toute autre envergure. Le livre retrace le combat d'un groupe d'environnementalistes menée par la militante Dr. Barbara pour sauver l'albatros sur une petite île du Pacifique. Un petit groupe s'installe sur les lieux afin de protéger des essais nucléaires, mais l'utopie qui est censée donner à la nature et à la femme une place centrale tourne à l'horreur quand la réalisation de l'idéal conduit à éliminer les animaux et même les membres masculins de la petite colonie. Alors que dans un premier temps, les observateurs constataient qu'autour de cette, et je cite, austère tribu, végétaux et animaux menacés s'épanouissaient et se multipliaient comme des visiteurs d'une autre planète, le rêve ne sera finalement que de courte durée. Ce qui se passe en réalité, c'est l'exact contraire de ce qui avait été projeté. Combien de temps resterait-il, écrit Ballard, avant qu'on commence à mettre les albatros en cage? C'était évidemment pour leur bien qu'on enfermait les animaux. Une liberté illimitée, ainsi que l'avait fait remarquer le docteur Saito, conduisait sans tarder au chaos. Le texte se garde bien de condamner explicitement, mais le renversement de la situation et le poids accusateur du discours rapporté du professeur permet de faire l'économie de tout commentaire. L'ironie de Ballard réalise avec légèreté et efficacité ce que le roman de Ruffin stigmatisait avec un didactisme si appuyé qu'il aboutissait à affaiblir la valeur littéraire du livre. Il est certain que l'engagement fort et la volonté réformatrice rendent les écologistes les plus engagés fragiles face aux attaques ironiques. Et ce d'autant qu'en règle générale, ils ne font pas preuve d'un sens particulièrement aigu de l'auto-ironie. Il convient néanmoins de prendre conscience que le champ littéraire permet également le déploiement d'une autre forme d'ironie qui se pense en symbiose avec l'écriture de la nature et dont témoigne notamment la position d'un Barry Lopez. Cet écrivain, connu en France surtout pour ses rêves arctiques, compte parmi les meilleurs écrivains de la nature writing. C'est à ce titre qu'il a été invité en 2010 a donné une nouvelle préface au célèbre livre de John Fowles que celui-ci a consacré à l'arbre. Lopez y note que The Tree, qui date déjà de 79, met au défi les deux grandes manières contemporaines de saisir la réalité, à savoir les mots et l'appareil photographique. L'écriture de Fowles parvient à révéler la forêt, et à travers elle, dit-il, le propre de l'homme. Et je cite, « If some intelligence one day looks back at us, it may determine that it was not tool-making that sets us apart, or even our sense of irony, which allows us to live with paradox, but our capacity for metaphor, the way in these pages Fowles reveals the incapturable. » Dans la hiérarchie des instruments matériels, les outils et conceptuels, les tropes, qui nous permettent d'adhérer au monde, c'est à la métaphore qu'il attribue la première place, dans une conception qui n'est en réalité pas éloignée de celle qui nous est rendue familière par les analogies valorisées chez Proust. Pour Lopez, l'homme reste cependant moins un animal capable de fabriquer des outils qu'un être marqué par le sens de l'ironie, qui lui permet d'astreindre une place à des données contradictoires. L'auteur revient ici à une réflexion qu'il avait amorcée dans Landscape and Narrative, un texte original, même s'il résonne mal dans l'espace européen, en raison de la place accordée à l'imaginaire amérindien, difficile à intégrer chez nous et sur lequel pèse toujours le soupçon d'indianisme. Soulignant que les vérités ne peuvent être portées que par des histoires, Lopez observe que le but de celle-ci est de concilier ce qu'il nomme le paysage intérieur, qui appartient à l'imaginaire de l'homme, et le paysage extérieur, qui est celui du pays. Beyond that, écrit-il, that the interior landscape is a metaphorical representation of the exterior landscape, that the truth reveals itself most fully not in dogma, but in paradox, irony and contradiction, that distinguish compelling narratives. Beyond this, there are only failures of imagination, reductionism in science, fundamentalism in religion, fascism in politics. Ainsi, et bien que l'idée d'harmonie véhiculée par l'analogie, la ressemblance et la métaphore soit centrale chez Lopez, L'auteur prend soin de souligner que la conscience des paradoxes, celle dont participe précisément l'ironie, est indispensable et qu'elle constitue un garde-fou essentiel qui protège de tous les fanatismes. L'idée selon laquelle la beauté peut s'atteindre aussi par le biais du dissemblable et non seulement à travers des rapports de similitude s'exprime régulièrement dans des textes qui se tournent vers la nature et dont on imagine trop rapidement qu'ils adhèrent naïvement à une beauté immanente du paysage. J'en prendrai deux exemples dans des registres très différents. Le premier m'est offert par Pierre Gascard, un écrivain oublié, mais qui mérite que l'on revienne à ses essais et à ses récits. Dès les années 60, il s'est tourné vers la nature en adoptant une forme de mystique matérialiste, c'est lui qui se sert de ce terme, qui rappelle un peu la position que pouvait avoir Roger Kewa. Le romancier, qu'il était aussi, à mon avis, mal vieilli, mais Le Fugitif, qui date de 61, nous donne l'illustration du fait que l'harmonie lisse n'est peut-être pas ce qui compte le plus dans un paysage. Le personnage qui parle, que je vais citer immédiatement, est un soldat français évadé. Il traverse la campagne et les forêts d'Allemagne. Et il note ceci. Le paysage vert printanier, avec une précision presque cruelle, s'ordonnait, recommençait à composer une image sans faille, allemande. Paul se mit à désirer violemment la France, où, dans chaque paysage, chaque instant, s'introduit toujours un léger démenti, une contradiction incidente, parfois sous les couleurs de la vulgarité, mais substituant en tout cas les heurts de la vérité à la légende. Pour celui qui s'en trouve éloigné, la beauté du paysage en France tient très exactement à sa nature ironique, à la juxtaposition d'éléments contradictoires qui lui donnent de l'aspérité, du relief. Les contradictions participent pleinement à la vérité du paysage, pour reprendre un mot qui est explicitement utilisé par Pierre Gascard. Plus près de nous, et dans un texte qui peut se ranger dans ce genre émergent qu'est le roman détective vert, ce n'est plus le paysage national, mais le soleil qui se charge d'ironie. Dans Smella et le sens de la neige, vous connaissez certainement le film, Peter Hug fait dire à son personnage au catéchisme, on disait que le soleil était notre Seigneur Jésus, mais au pensionnat, on nous enseignait qu'il s'agissait d'une bombe à hydrogène en explosion permanente. Pour moi, il sera toujours le clown céleste. Dans mon premier souvenir de soleil, je le regarde en face en plissant les yeux, sachant que c'est défendu. Et je me dis qu'il menace et rit en même temps. Comme le clown, comme il se grime avec du sang et de la cendre, place un petit bout de bois entre ses joues et s'approche de nous, nous les enfants, inconnus, horribles et joyeux. Le passage invite à prendre conscience de la multiplicité des perspectives et révèle un imaginaire qui confère à l'ironie du contradictoire, une place centrale. Il existe ainsi incontestablement une littérature qui s'inscrit en sympathie avec la nature ou la cause et l'écologiste, mais qui refuse de verser dans l'exemplum moralisateur. Dans cette perspective, il est intéressant de noter que parmi les premières fictions qui se sont inscrites dans le début de la prise de conscience des questions environnementales pendant les années 70, l'on retrouve au moins une œuvre éminemment ironique. Il s'agit de celle du Finlandais Arto Pasilina, un écrivain devenu très populaire en France aussi, et chez qui la nature est omniprésente. Pasilina exprime sa préoccupation pour le monde naturel en empruntant au roman picaresque son côté décalé. Le lièvre de Vatanen, de 75, raconte comment un ancien journaliste parcourt le pays en compagnie d'un lièvre auquel il s'est attaché. Des évocations du sentiment de plénitude éprouvé dans la nature, par exemple le réveil par le chant des oiseaux dans une bonne odeur de foin d'une grange, le lièvre reposant au creux de ses bras, j'ai cité Vatanen, alterne avec des épisodes bien plus cocasses, tels que la rencontre avec un ours. L'ours étudiait l'homme, serait contre lui, on aurait dit un gnome qui aurait trouvé une poupée et n'aurait pas très bien su qu'en faire. À titre d'expérience, l'ours mordit le ventre de Vatanen et obtient un cri de douleur perçant. L'ours affolé projeta l'homme contre le mur de la cabane et se rua dehors par la fenêtre. La capacité à rendre présente la nature à travers une écriture qui s'efforce de faire une place centrale au sens n'empêche pas la fantaisie de s'exprimer. L'on notera que le parti pris n'est pas réaliste, ainsi que l'illustre d'ailleurs la fin du roman, qui voit le protagoniste s'évader de prison avec son lièvre en traversant tout simplement le mur d'enceinte pour se retrouver libre. La part de la fantaisie, augmentera encore dans la suite de l'œuvre. Ainsi, dans La forêt des renards perdus, qui date de 83, Pasilina mettra en scène un gangster réfugié en forêt. L'homme entend se faire passer pour un écologiste aux yeux d'un major égaré lors des manœuvres, et il déclare « Tout ce qui touche à la protection de l'environnement me passionne ». On se doute qu'il n'en est rien, mais que la rencontre de personnages que rien n'était censé rapprocher sera l'occasion de péripéties peu banales, d'autant qu'une nonagénaire échappée d'un hospice vient rejoindre le duo qui vit en pleine nature, au milieu de nulle part. On constate aussi un ton d'ironie chez des écrivains qui, en France, se tournent du côté de la campagne. Alors, il se fait entendre, par exemple, chez Jean-Loup Trassard, dont je vous conseille absolument la lecture de Dormance, chez Pascal Comer ou chez Marie-Hélène Lafont. Il convient cependant de mentionner tout particulièrement, je pense, l'œuvre d'Éric Chevillard, parce qu'elle s'inscrit aux antipodes d'une littérature réaliste qui apparaît trop souvent comme la seule marque de fabrique de la littérature environnementale. Alors que Pasilina déploie son ironie d'abord autour de l'intrigue, c'est sur les jeux de la langue que Chevillard fait reposer la sienne. La thématique de l'animal est centrale dans son œuvre, et c'est sur le mode de l'ironie que dans « Sans Laurent Houtan », qui date de 2010, il interroge les conséquences de la disparition des grands singes. Dans le monde anglo-saxon, il faut évidemment mentionner « Solar » de Ian McEwan, qui compte parmi les livres les plus visibles dans le champ thématique de l'écologie. De nombreuses prises de position publiques de l'auteur en faveur de l'environnement témoignent de son engagement dans ce domaine, mais il invite à la lucidité quand il met en scène le pouvoir de la littérature, pouvoir tout relatif. Le protagoniste du roman, Michael, un ancien prix Nobel de physique en quête de sources d'énergie alternative, participe à un certain moment à une expédition avec d'autres acteurs engagés de la vie civile. Les discours enflammés en faveur de l'écologie tenus par un romancier à la mode le laissent perplexe. Il lui semble étrange de se retrouver en compagnie d'un si grand nombre de personnes qui affirment que ce serait art, que ce serait l'art, hein, in his highest forms, poetry, sculpture, dance, abstract music, conceptual art, that would lift climate change as a subject, gild it, palpate it, reveal all the horror and the lost beauty. Hein, donc il l'interroge très très explicitement, mais paradoxalement dans un roman, le pouvoir de la littérature d'avoir un poids, une influence quelconque sur le changement climatique. La citation témoigne, comme d'ailleurs la tonalité d'ensemble du roman de Ian McEwan, que l'auteur a privilégié les chemins indirects de l'ironie pour inviter à la réflexion et que rien n'est plus éloigné de son horizon qu'un militantisme moralisateur. Il devrait donc être clair, je l'espère à présent, que à partir de ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, que rien ne permet d'avancer que l'écriture de la nature ou la discipline universitaire émergente qui s'y intéresse, l'éco-poétique, serait intrinsèquement hostile à l'ironie, ni même ne s'en tiendrait éloigné. Pas plus d'ailleurs qu'il n'est légitime de soutenir que tout défenseur de l'environnement serait obligatoirement dépourvu du sens de l'autodérision. L'on sait depuis longtemps que l'ironie, celle du blâme par la louange en particulier, est une forme qui peut servir n'importe quelle cause, c'est ce que Linda Hutcheon nomme à la suite de Hayden White sa nature trans-idéologique. En définitive, l'ironie vaut ce que vaut l'ironiste. La valorisation de la pratique en littérature tient aux ambiguïtés qu'elle fait naître et qui demande un engagement de la part du lecteur. Dans le domaine de la littérature environnementale, qui a retenu ici mon attention, il me semble qu'elle est surtout précieuse afin de maintenir une distance salutaire par rapport à un attachement trop grand à une cause, à un groupe ou à un lieu naturel dans ce cas-ci. C'est dans cette perspective d'ailleurs que je me suis efforcé de choisir des exemples dans des traditions littéraires très diverses et dans des domaines nationaux qui dépassent les territoires généralement abordés. On s'étonne en effet un peu que la critique environnementale, comme une part importante de l'engagement écologique, se tourne prioritairement vers le patrimoine national, quand ce n'est pas vers un univers local conçu de manière plus restreinte encore. Si l'ambition est certes d'agir localement tout en pensant globalement, pour rappeler ici une formule à succès, l'on constate néanmoins qu'une forme de particularisme trouve régulièrement à s'exprimer. La valorisation du lieu naturel, nécessaire parce que c'est par elle que la littérature peut espérer conduire à un changement d'attitude envers l'environnement, conduit parfois à un attachement exclusif. Or, l'ironie constitue un outil qui nous permet de moduler notre rapport à un lieu et à une communauté et de nous prémunir contre un rapport qui tournerait à la dévotion. La manière dont l'ironie participe d'une mise à distance critique s'est vue récemment mise en exergue par Le dépaysement, Voyage en France, un des livres qui interroge avec la plus grande pertinence la question de l'identité dans la relation de celle-ci avec un pays et avec ses paysages. Réfléchissant à la manière dont l'individu s'efforce de se situer par rapport à son lieu et à la communauté dans laquelle il vit, Jean-Christophe Bailly, parce que c'est de lui qu'il s'agit, revient à la valeur que Walter Benjamin accordait dans Le sens unique à l'ironie. Et je cite Bailly qui reprend des passages de Benjamin. C'est à l'intérieur de cette gamme, qui va de la noyade pure et simple de l'individu dans le bain communautaire, jusqu'à l'évasion sans retour, que Benjamin a pu reconnaître en son temps le plus européen de tous les biens, qu'il définissait ainsi comme l'ironie plus ou moins nette avec laquelle la vie de l'individu prétend se dérouler sur un autre plan que l'existence de la communauté, quelle qu'elle soit, dans laquelle il se trouve jeté. Ce bien, Benjamin disait que les Allemands d'alors l'avaient tout à fait perdu, et il ne savait même pas encore à quel point l'histoire allait lui donner raison. Mais là où je veux en venir, c'est là où la réduction des cultures à des signalétiques ou à des panoplies, et où la capture de la provenance par l'appartenance nous conduisent. C'est au fait alarmant que, dans la France de 2010, la marge de manœuvre de cette ironie, c'est-à-dire de cette liberté dont parlait Benjamin, tend à se réduire. L'ironie est ce qui permet à l'individu d'ajuster constamment sa place dans le monde entre adhésion et distanciation. Le propos final de Bailly, qui consiste en un plaidoyer en faveur d'une forme d'existence qui relève du bariol, il a pris ça, le bariol, témoigne par le choix même du terme de la valorisation d'une ironie dans laquelle la conscience des contraires permet à chacun de trouver une place dans la société sans avoir à y adhérer pleinement. Une adhésion totale au plus près de la nation, au plus près du paysage, est en effet toujours une adhésion à un cliché. Le mot « valise » que Bailly imagine, le mot « valise » et que je viens de citer, qu'il imagine, est formé par l'espagnol « barrio » qui désigne un quartier, mais Bailly précise immédiatement, mais avec la nuance, je cite, « imprécise et non appuyée de quartier populaire ». Et l'autre mot du mot « valise »,« bariolé », qui rappelle, et je cite de nouveau Bailly, « une intensivité de la variété » avec un accent de gaieté ou de vivacité. Le bariol laisse deviner, je cite de nouveau, un quartier mixte, bariolé, mais surtout, selon les termes de Jean-Christophe Bailly, la forme d'un état du monde présent dans de très nombreux quartiers, marqué par la diversité où, par la force des choses et malgré les résistances, les inerties, les tensions, une dimension de coexistence finit par l'emporter. Alors, il est très intéressant d'observer que Jean-Christophe Bailly retrouve ici une voie que Pierre Gascard, l'écrivain cité précédemment et qui voyait dans l'ironie du paysage français sa marque spécifique, lui conférant toute sa valeur, avait déjà suivi dans les années 90. Regardant avec la friche, non pas du côté des villes comme le fait Bailly, mais des campagnes françaises, Gascard notait comment les villages ruraux se voyaient repeuplés par des citadins français et étrangers, venus passer d'abord des vacances, puis ayant décidé au moment de leur retraite de s'installer définitivement sur ces lieux, où disparaissaient précisément les activités traditionnelles liées à l'agriculture. Racontant par le détail l'histoire et les conséquences de ce genre de migration dans un petit village du Jura, Gascard notait combien la situation préfigurait, selon lui, et je le cite, « la fusion des peuples qui prévaudra en Europe ». Et je cite la suite. « La diversité de leurs origines pourrait autoriser à parler d'un bariolage cosmopolite. S'ils ne se fondaient très vite dans la masse déjà cosmopolite des habitants, tout au plus y apporterait-il un instant une note nouvelle dont la singularité tient au caractère souvent des plus inattendus de la nationalité qu'il représente, un peu comme dans l'album d'un philatéliste, un timbre à qui par hasard vient jeter une note de couleur insolite, nimbant quelque royale effigie. » On voit très bien que c'est un exemple caractéristique d'ironie de juxtaposition, une ironie du sort comme on en connaît plusieurs. Résolument optimiste, comme l'est aussi Jean-Christophe Bailly quand il imagine que les résistances seront surmontées, Gascard estime que ces nouvelles communautés permettront, par le brassage des cultures qui les caractérisent, de garantir aussi le futur de la planète. Et je le cite, « Ainsi, la mission écologique, protection du dernier et suprême bien commun, se substituera-t-elle au nationalisme ? Et l'on souhaite que l'homme y apporte la passion, voire à l'occasion l'héroïsme, qu'il a montré au cours des siècles dans ses autres combats. » Pour Bailly, comme pour Gascard, un bariolage qui garantit la multiplicité et la diversité des perspectives conduira à fonder une politique dont les priorités dépasseront les enjeux nationaux. Cette position nouvelle, et qui fait une place à l'ironie, permettra au paysage naturel de persister d'autant plus durablement que le regard qui sera porté sur eux se trouvera déchargé du nationalisme qui les a si lourdement pollués dans l'Europe du XXe siècle. Je vous remercie pour votre attention. Oui, alors, si on commence par la discussion autour de Houellebecq, on n'est pas prêt de sortir très tôt. Je suis toujours mal à l'aise quand il s'agit de parler de Houellebecq, parce que les premiers livres, je les ai bien appréciés, j'ai beaucoup moins apprécié les derniers, et c'est paradoxalement dans les derniers que la question revient. Je ne vais pas m'avancer parce que... Je ne connais pas suffisamment le texte pour voir où exactement il voudrait en venir. À certains moments, dans son dernier texte, enfin, dans La carte et le territoire en particulier, on a un peu pris d'hésitation. Alors on peut dire que c'est très bien quand on ne sait plus à quel saint se vouer, s'il faut prendre le discours sérieux ironiquement ou le discours ironiquement au sérieux. Mais il me met mal à l'aise. Et en plus, je dois dire que j'ai une certaine réticence par rapport à Houellebecq depuis au moins plateforme. Et c'est pour ça aussi que, alors qu'il figurait dans mes notes, je n'ai pas... mais vous avez raison. Enfin, c'est certainement un enjeu qui est là. Et je crois aussi que ça participe au succès de Houellebecq, qui se moque aussi de ce genre de revendications. Voilà. Donc, le champ est certainement... existant et la problématique présente, mais je...
Plusieurs aspects de votre conférence qui stimulent des questions, mais voilà. Si on faisait le recensement de la presse française, par exemple, vis-à-vis des mouvements identitaires américains, dans les années 90, au début des années 80, on pourrait dresser un bilan où c'est systématique que la presse française accuse ces mouvements-là de ne posséder aucun sens du mot. Je me souviens parce que j'ai participé à un panel des début des années 90 sur le politiquement correct. Oui. Et puis, c'était essentiellement ça que je recensais pour les féministes, pour les écologistes, bien sûr, pour les postcolonialistes. Et donc, je suis d'accord avec votre idée principale sur l'ironie, comme l'ironie nous empêche, ça veut dire empêche les positionnements figés, irréfléchis, égoïstes, solipsistes, tout cela. Mais en même temps, ce qui accompagne souvent cette critique, c'est l'obligation de rire. C'est non seulement vous n'avez pas de sens de l'humour, mais vous devez rire de ce que je vais dire maintenant, qui est drôle, qui est amusant. Et souvent, ce rire est abusif, violent. C'est une forme de pouvoir. On a parlé souvent du rire fasciste ou du rire stalinien, par exemple. Donc, je me demande si vous pouvez réfléchir un peu à cela.
Oui, enfin, il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire. Il y a d'abord la position de la France, disons, par rapport à un certain nombre de mouvements, et ça vaudrait aussi pour l'éco-critique, et même pour l'écologie en général, qui n'est pas du tout populaire. L'écologie en France est très très différente de tous les autres pays européens du Nord. Donc, en effet, ce sont des choses qui sont volontiers moquées par un discours intellectuel dominant. Le style Libération pourrait faire ça, et Libération a pu faire ça aussi. Voilà, c'est tout à fait évident. Et là, on est dans un phénomène de groupe qui rejette quelque chose, et pour rejeter ce quelque chose, se sert de l'outil rhétorique de l'ironie qui met les rieurs de son côté. Et je pense que c'est certainement vrai. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, même pour les domaines critiques que vous signaliez. Enfin, je veux dire, les gender studies, même si elles existent un peu, n'ont toujours pas droit de cité véritable dans les universités françaises. Et ça vaudrait pour tout plein d'autres choses. Donc là, évidemment, l'ironie est cet outil dont ils se servent très, 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 très volontiers. Donc ça c'est certain. Pour ce qui est de l'autre versant, je crois qu'il faut distinguer là une autre forme d'ironie. Enfin, il y a cette ironie rhétorique qui est l'ironie du renversement, et puis il y a cette autre ironie que nous valorisons comme littéraire, et qui est une ironie de l'ambiguïté, et qu'on a définie à travers toute la conférence jusqu'à présent aussi, à travers l'ambiguïté, où l'analogie joue un beaucoup plus grand rôle, et où là, évidemment, on ne peut pas décider de la même manière. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse le plus en tant que littéraire, c'est cette ironie qu'on ne peut pas traduire en faisant un effort de renversement simple. Je pense que ça, c'est tout à fait certain. Mais on parle de deux choses différentes, je crois, quand on emploie le mot d'ironie pour parler du blâme par la louange, ou quand on parle de l'ironie ambiguïté, si vous voulez.
J'ai peut-être quelques questions pour vous obliger un peu à compliquer un peu le portrait que vous avez dressé. D'une part de l'éco-critique, et d'autre part une éco-politique possible qui est plus française. Parce qu'à la fin, vous êtes arrivé à la conclusion que peut-être il faut ce bariolage pour dépasser les enjeux nationaux. Et moi, je vais insister sur les différences culturelles. Premièrement, parce que l'éco-critique est née dans un certain milieu, un contexte socio-historique qui fait qu'il y a ce manque d'ironie au début. Mais si on trace l'histoire un peu différemment, il y a des éco-critiques dont vous connaissez sans doute les livres comme Timothy Morton et Ecology Without Nature, qui est une toute autre prise de position, ou quelqu'un comme Ursula Hayes qui parle Sense of Place, Sense of Planet. Et puis je pense que à l'intérieur de la France même, plutôt que de parler d'éco-critique et de regarder et voir s'il y a quelque chose de semblable comme ce qui se passe aux États-Unis, moi, si ce ne serait pas possible de construire à partir de l'écologie politique de Latour, par exemple, de Bruno Latour, ou de se servir d'Isabelle Stenger avec son cosmopolitique, et puis de peut-être rendre ça un peu plus compliqué.
Alors, donc, on entre vraiment, je crois, dans la problématique essentielle. Je crois que il y a une particularité, et votre intervention montre très bien à quel point le regard du côté de la France ou du côté des États-Unis, parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement les États-Unis, il y a l'Angleterre aussi, ce n'est pas non plus la même critique, ils ont d'autres associations.
Ni au Canada.
Donc, vous voyez, c'est particulièrement lié à des enjeux nationaux déjà. Et rien que le fait que les premiers noms que vous citiez soient des noms de critiques, et tout à fait importants en effet, montre une différence de perspective. La France veut commencer par travailler sur des textes et tient à établir un corpus de textes dignes d'intérêt littéraire. L'engagement politique dans ce domaine-là en particulier ne sera pas étudié par les littéraires aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne vendra pas, on ne vendra pas l'éco-poétique en revenant sur des enjeux de société. D'autant moins qu'en France, contrairement à la Belgique, parce que je ne suis pas français, je suis belge, la situation de l'écologie politique en France est lamentable. Je veux dire, c'est un apax, la situation en France. Alors on peut évidemment trouver, et Latour est un bon exemple, on peut trouver des penseurs qui réfléchissent différemment tout à fait, mais ils n'ont aucune surface, aucune visibilité, et on va immédiatement, si on travaille dans cette perspective-là, on va faire de la recherche très intéressante, mais on va s'éloigner du texte littéraire. Or, et c'est évidemment, j'ai fait ça dans d'autres articles qui sont en cours de publication, la première chose à faire, à mon avis, n'est pas de trouver les outils théoriques, mais de voir de quel texte on parle, je veux dire, quel texte on veut rendre visible. Et là, serait peut-être la différence. Alors, une perspective n'exclut pas l'autre, oui, je pense qu'elles sont complémentaires, mais je crois que le choix du mot écopoétique est une manière de mettre l'accent sur le travail d'écriture, et c'est-à-dire exclure aussi tout ce qu'on trouve mauvais. Et par exemple, je sais très bien que dans les départements nord-américains, on peut étudier par exemple Ruffin dans des cours. Il est impensable en France ou chez nous d'étudier Ruffin dans un cours, parce que c'est considéré comme de la sous-littérature, même si Ruffin lui-même est vraiment quelqu'un d'intéressant, vraiment intéressant. Mais le Parfum d'Adam, par exemple, mais même les autres, c'est de la mauvaise littérature. Tandis qu'il y a une légitimité en Amérique du Nord pour aborder ça, même dans un cursus universitaire. Donc le tout, et c'est pour ça que je signalais par exemple l'œuvre de Jean-Loup Trassard, parce que ça c'est vraiment fondamental, et c'est sur lui que j'ai publié un texte dans Poétique, d'où l'importance de trouver des textes de grande valeur littéraire avant de construire quelque chose. Voilà. Mais je n'exclus pas du tout, évidemment, et c'est évident qu'il faut, il faut nuancer la question, mais on ne peut pas transposer des choses qui valent dans une perspective nord-américaine, on ne peut pas les transposer telle qu'elle en France. Ça n'a aucune chance, déjà, ça n'a aucune chance de passer, parce que les traditions de pensée et le monde universitaire est très, très différent. Et pourquoi est-ce que j'ai terminé par cette question de Bariol chez Jean-Christophe Bailly, qui est vraiment c'est un très beau livre. Parce que une des choses qui me frappe vraiment, s'il y a vraiment un domaine où nous devrions être capables de dépasser des enjeux nationaux, c'est ce domaine-là. Or, j'ai vraiment été étonné quand j'ai lu, disons, les classiques de l'éco-critique, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, de voir à quel point on lisait avec des outils nationaux, des auteurs nationaux, dans une perspective. C'est pas pour rien que Thoreau, founding father de la littérature, et évidemment, on parle de tout le mythe américain quand on parle de Thoreau, mais ça ne veut rien dire en Europe. Parler de Thoreau en Europe, ça ne veut rien dire. Le français ne se définit pas par un modèle qui serait celui de Thoreau. De même qu'on ne se définit pas par un rapport à la ruralité qui est celle des Anglais. Les Français, a priori, se définissent d'abord par la modernité qui a toujours été la modernité des villes. Et quelque part, alors, ils se souviennent d'origine paysanne, ce qui n'a rien à voir non plus avec la nature sauvage, ou pour autant que ça existe, que connaissent les États-Unis, par exemple. Donc, il y a des contraintes nationales importantes, il faut en tenir compte. Mais je crois que, enfin, moi je serais très heureux je n'ai pas tout lu évidemment, mais je serais très heureux de voir des critiques américains se tourner vers un autre corpus. Ici j'ai fait l'exercice exprès de prendre des auteurs un peu de partout et dans des genres très très différents, et justement pas les auteurs français, puisque c'était un peu le but du jeu. Mais c'est évident que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, et à mon avis, de toute façon, dans la production littéraire contemporaine, parce que je travaille beaucoup sur la littérature contemporaine, dans la production littéraire contemporaine, on le voit très bien dans les publications récentes, et je crois que ça ne prendra que de l'ampleur dans les années à venir, la présence de la nature sera de plus en plus visible. Alors, pas du tout dans le genre Sylvain Tesson, qui va passer... 6 mois dans une cabane en Sibérie, pas ça, mais rien que par le fait que beaucoup d'auteurs, jeunes auteurs français, se tournent vers les États-Unis et vont faire des longs voyages aux États-Unis et reviennent avec la manière dont ils ont été confrontés au paysage américain, des choses qu'on ne voyait pas, des sortes de road movies littéraires, où ils veulent parler de la nature qu'ils n'ont pas chez eux, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se définir. Mais je pense que c'est émergent. On n'a pas, il n'y aurait pas moyen de faire une liste de 50 auteurs.
Alors que moi, j'enseigne Michel Houellebecq, et je pourrais pas éviter ce genre d'écriture où justement on se sert des modèles américains. Parce que je pense de dire qu'à un moment donné, peut-être la France aura cette même sorte d'écriture de la nature. Je pense que c'est tellement enraciné dans... le milieu américain, que même au Canada, on ne peut pas parler de, bah, si on creuse et on cherche, on peut parler de, du roman du terroir au Québec, et on peut essayer de trouver des équivalents, alors que moi, j'aimerais bien voir que, justement, il y a une sorte d'écriture qui existe déjà en France et qui pense le rapport entre l'être humain et non pas la nature, mais l'environnement plus généralement, et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le travail de Jean Rollin. Parce qu'en fait, je pense que c'est idéal pour creuser cette question. Je pense qu'il le fait très, très bien. Alors moi, j'aimerais plutôt voir l'éco-politique de ce genre de texte. Et je pense que Nathalie Blanc, dans l'introduction à écologie et politique, elle utilise le terme, c'est sur la littérature et l'environnement. Elle utilise éco-politique parce qu'il y a cette... en phase, on met l'accent sur justement le côté... écrire. Alors, ce qui m'a frappé un peu dans votre traduction, vous avez pris écrire, écriture de la nature, au lieu de prendre écrire la nature, ce qui est aussi une grande différence, comme Michel Granger et Pugue, quand ils traduisent même, pour montrer la différence, pour montrer qu'ils vont mettre l'accent sur l'acte d'écrire, ils traduisent écriture de la nature ou brand nature writing par écrire la nature quand ils vont voir, ils vont examiner les travaux. Donc, oui.
Oui, non mais de toute façon, on n'aura pas d'équivalent. Vous avez noté aussi, je n'ai pas parlé dans mon titre non plus d'écriture environnementale. Je n'ai pas employé le mot, puisque justement, je ne parle que de la nature et pas de l'environnement, ce qui est encore un tout autre, l'histoire des lieux pollués, etc. Ça tombe pour le moment en dehors du champ que j'ai voulu aborder ici. Mais ça entre évidemment dans une réflexion éco-critique, mais ça n'était pas mon propos ici.
Dans une des citations, je pense que c'était Faust, il était question de la distinction entre l'ironie et la métaphore.
Oui.
Et je pense que l'ironie est définie comme permettant de vivre avec le paradoxe et le contradictoire, et métaphore qui communique le l'inédit, ce qui se dit pas. Et ça m'a fait réfléchir parce que hier, Shoshana Feldman semblait dire, parler un peu vers la fin de son discours, de ce qui se dit pas, l'amour qui je ne sais pas comment exactement traduire les mots de Wilde, the love that there must be the alors oui, dans ce sens-là, l'ironie négocie entre ce qui se dit et ce qui se dit pas.
et en fait nous permet de tracer un peu le portrait de l'inédit sans mettre en évidence concrètement, etc. Je veux juste avoir un peu vos réflexions sur la distinction que fait Faust.
Oui. La question est toujours un peu. Enfin, le paragraphe, enfin, la phrase ici de Faust est assez caractéristique d'une tendance générale. Le tout étant de savoir si le vrai peut se dire. Mais ça vaut bien au-delà de la problématique qui nous préoccupe. Si le vrai peut se dire ou se dit le mieux directement, autrement dit, s'il peut être révélé, et s'il est révélé par des voies directes, ou s'il demande une interprétation ou un interprète. Et alors, le réalisme serait du côté du voilà, transparent direct, et évidemment, une écriture du voile serait du côté de l'ironie. Et je crois que ce que Faust cherche à dire là, c'est que peut-être, même si c'est l'analogie, parce que l'analogie est très importante pour Faust, même si l'analogie nous donne l'impression d'être en prise directe avec le monde, hein, enfin, j'ai cité en passant Proust, mais on pourrait prendre cet exemple là aussi, en fin de compte, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est quand... la réalité, le texte résiste, et à partir du moment où on a résistance, on a ironie, on a interprétation, le texte veut dire autre chose, c'est la formule de Fry, toute littérature est ironique parce que ce qu'il dit est nécessairement différent de ce qu'il veut faire comprendre. Donc voilà, et je crois que c'est ça qui est mis en évidence chez Faust, qui veut souligner son addition première à l'analogie, mais qui est obligé de dire que quelque part, l'ironie est importante aussi. Parce que même si ici il est clair dans la citation, il est clair qu'il met l'analogie avant l'ironie, la suite de son texte montre qu'il tient compte de l'ironie. Et ça serait assez intéressant de voir chez Pierre Michon, par exemple, dans Les Vies minuscules, on trouve des analyses tout à fait semblables, alors autour de questions de religion et de vérité. Aussi une réflexion entre... l'ironie et l'analogie ou la métaphore, qu'est-ce qui dit plus le vrai. On pourrait très bien juxtaposer ces citations, ces deux attitudes. Parce que maintenant, si le texte littéraire est transparent... En fait, nous justifions notre métier en fait en disant que le texte littéraire n'est pas transparent. Et c'est assez récent. Je veux dire, le 18e siècle, le prof de littérature était celui qui étudiait les textes anciens, et il fallait le traduire, puisque la langue n'était pas connue. Mais l'interprétation, comme nous la faisons, n'avait pas le même poids. Mais nous sommes des profs, et nous disons à nos étudiants, on va vous expliquer ce que le texte veut dire. A priori, chaque lecteur peut le lire. Mais on a aussi, donc nous avons, je crois aussi, nous, conduit, enfin notre profession a conduit aussi à valoriser les obstacles, à expliquer qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui ne se donne pas immédiatement. Et puis aussi, toute l'histoire de la littérature, à partir de Mallarmé au moins, nous a beaucoup aidés.
Une question, commentaire ?